I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poop-poop-pee-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Urien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Voilà, donc Emmanuel qui va nous parler entre autres des deux recueils qu'elle a publiés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire « Cours noir sans sucre » et puis « Toute humanité mise à part », donc deux recueils avec des nouvelles, comme l'indique Cours noir sans sucre, qui sont assez noires et vraiment qui n'ont pas de fioritures, hein, elles sont dépouillées de toutes petites choses, voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure, et comme à l'accoutumée, je vais vous donner quelques petites infos autour du livre. Alors je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai mélangé les dates. Alors je vous ai annoncé des choses pour le 30 novembre alors qu'on était que le 23. Je suis vraiment désolée. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le jeudi 30 novembre et donc je vais essayer de pas me tromper de date comme la semaine dernière. Donc ce dimanche 3 décembre à 16h à la médiathèque José Cabanis, exactement au grand auditorium, c'est-à-dire au Red Jardin, il y a une lecture de texte par Denis Wald, d'après Alexandre Vialat, avec mise en musique par Daniel Le, c'est une dame Dumas. Alors, le titre, c'est « L'homme n'est que poussière, d'où l'importance du plumeau ». Donc déjà, ça vous donne un petit peu le ton. Et je vous dis un petit peu le résumé. « Sur un quai de gare, entre valise et pendule, entre temps arrêté et temps qui passe, un étrange voyageur se souvient des amis disparus. Refusant de se laisser envahir par une trop sombre nostalgie, il médite à haute voix sur la vie, la femme, la grammaire, et le Jipaël Barbu. À travers eux, l'auteur et le comédien ne cessent de traquer l'homme, animal métaphysique, petit grain de poussière, d'où l'importance du plumeau. Donc ce sont des extraits des géniales chroniques d'Alexandre Vialat, et ce spectacle parcourt l'histoire de l'homme en mêlant des digressions hilarantes, de beaux jeux de mots et de fines métaphores, parfois délicieusement loufoques. Donc c'est ce dimanche 3 décembre à la médiathèque à 16h, et je vous rappelle que l'accès est libre et gratuit, donc vraiment allez-y sans modération. Ensuite, une rencontre avec Philippe Ségur, donc c'est ce soir, jeudi 30 novembre à 18h, et ça se passe au centre de documentation de l'ANFA, au complexe agricole d'Auzeville. Alors l'auteur est professeur à la faculté de droit de Perpignan. Il a reçu en 2002 le prix Renaudot des lycéens pour la métaphysique du chien, et puis le prix Edmé de La Rochefoucauld en 2003 pour ce même roman également. Donc c'est une rencontre organisée par la librairie de la Renaissance. Donc c'est ce soir à 18h et je vous donne le numéro de téléphone de la librairie pour tout renseignement. 05 61 44 16 32, 05 61 44 16 32. Voilà. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que le prix Interallié de cette année a été attribué ce lundi dernier, 27 novembre, à Michel Schneider pour son livre Marilyn, dernière séance, paru aux éditions Grasset. Donc, je vous l'avais annoncé, enfin, je vous en avais parlé un petit peu de ce livre, puisque je vous avais dit que je ferais un de ces jours prochains, une émission donc un peu sur Marilyn, sur les livres qui lui ont été consacrés, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup Marilyn Monroe. Et donc c'était pour vous signaler que ce livre dont je vous avais parlé, de Michel Schneider, a donc reçu le prix Interallié, donc Marilyn, dernière séance, aux éditions Grasset. Mais bon, je vous le présenterai plus en détail, je pense, en 2007. Voilà. Ensuite, la rencontre le samedi 2 décembre, donc ce samedi entre 14h et 19h, donc au forum de justement de la librairie de la Renaissance, livre en fête avec beaucoup d'auteurs, de rencontres d'auteurs, dont Progresso Marin pour Exil, dont Laurent Xary pour Mémoire des Républicains Espagnols, et puis Raymond San Geroteo pour Olivier de l'Exil, les Oliviers de l'Exil, et puis Gisèle Matamala pour Cette lettre oubliée. Donc c'est pour célébrer eh bien, voilà, la lutte pour la liberté et contre le fascisme. Donc l'Espagne est bien sûr à l'honneur dans cette journée, donc du samedi 2 décembre de 14h à 19h. Je vous rappelle l'adresse, le Forum de la Renaissance, c'est 1 Allée Marc Saint-Saëns à Toulouse. Et donc le numéro, c'est toujours le même, 05 61 44 16 32. Et il est préférable de s'inscrire, voilà, parce qu'il a des dégustations, pardon, de vin d'Espagne, de prévu. Enfin voilà, c'est une rencontre avec les auteurs, avec des débats donc sur cette question, voilà, sur le thème de l'Espagne, la libération de l'Espagne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petites infos? Ah oui, au marché de Noël, oui, c'est bientôt, hein, donc c'est bientôt Noël, donc il y a bientôt le marché de Noël sur la place du Capitole à Toulouse, et la maison d'édition Le Griffon Bleu, que j'ai déjà invité, que vous connaissez, avec Didier Debord, qui est le responsable de cette maison d'édition, sera présente donc place du Capitole le vendredi 8 décembre, y compris pendant la nocturne de ce vendredi 8 décembre, et dimanche 10 décembre, donc place du Capitole, et la vente donc des publications donc de la maison d'édition du Griffon Bleu est au profit des enfants hospitalisés de l'hôpital Purpan. Donc voilà, il y aura des dédicaces avec les auteurs. Ça sera vous connaissez le Griffon Bleu et Didier Debord, sa bonne humeur et sa convivialité. Donc je vous invite à passer donc à son stand le vendredi 8 décembre ou le dimanche 10 décembre, et puis vous ferez une bonne action parce que voilà, c'est pour les enfants hospitalisés à l'hôpital Purpan. Et puis je termine avec la librairie Priva qui est 14 rue des Arts et qui recevra je n'ai pas la date. Alors écoutez, je sais que c'est le 13 décembre, donc ça doit être un mercredi. Voilà, c'est un mercredi, donc le mercredi 13 décembre à 18h, la rencontre avec le célèbre, est-il utile de le présenter, Bernard Pivot, donc pour son dictionnaire amoureux du vin, publié aux éditions Plomb. Voilà, donc il viendra vous présenter ce livre qu'il vient d'écrire, donc bon, ben, l'auteur... on le connaît, gourmand de mots et fin gourmet, voilà. Et là, il nous régale avec un ouvrage plein de, voilà, avec sa récolte d'une vie d'ivresse, voilà, avec plein de détails sur les vins, etc. Donc, c'est le mercredi 13 décembre à 18h à la librairie Priva, 14 rue des Arts, donc Bernard Pivot.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Voilà, les infos sont terminées, avec pas trop d'erreurs de date, je l'espère, cette fois-ci, et je me tourne vers mon invité. Vous êtes née à Angers, vous avez passé pas mal d'années, vous avez fait vos études en partie à Angers.
Oui, en fait, j'ai un petit peu vadrouillé en France, mais je suis née à Angers, j'y ai grandi jusqu'à l'adolescence, on va dire, et ensuite, j'ai suivi mes études qui m'ont menée un petit peu partout.
Et puis, dont à Toulouse.
Voilà, dont à Toulouse, j'ai fait ma maîtrise de LEA, langues étrangères appliquées. Et ensuite, après quelques années de pérégrination, on va dire, pour les études puis le travail, j'ai choisi, avec mon conjoint, de revenir à Toulouse.
Voilà, parce que vous avez aussi travaillé et vécu à Paris.
Oui.
Donc, ce qui est, voilà, tout à fait différent. Un passage obligé, voilà. La capitale, la grande.
Voilà, et donc, nous avons quitté Paris pour nous installer à Toulouse.
Voilà, donc ça fait quelques années, donc vous êtes toulousaine.
Depuis 7 ans maintenant.
Depuis 7 ans. Voilà. Et donc, vous avez fait donc essentiellement des études de lettres. On va dire, de langue vivante,
oui,
de littérature.
Les lettres, c'était effectivement une majeure dans le sens où elles m'ont accompagnée d'un bout à l'autre, mais il y a eu aussi une partie beaucoup plus, on va dire, raisonnée, dans le sens où les lettres, si on ne veut pas faire de professorat, ne mènent pas forcément à grand-chose toute seule. Donc j'ai fait des études qui étaient un petit peu plus axées sur les langues et l'économie,
voilà, de gestion,
finances internationales, etc.
Voilà. Mais donc vous avez voyagé aussi. Vous avez résidé à Moscou.
J'ai passé 6 mois à Moscou et puis 1 an en Allemagne. Donc c'était pour les études, le travail, le tout un petit peu mélangé en transition entre justement la période universitaire et puis celle qui m'a amenée sur le marché du travail.
Et alors comment on en vient à écrire avec tout ça, quoi ? Bon, donc vous êtes maman de 2 enfants.
Oui.
Voilà. Alors comment on en vient à écrire des nouvelles ? Parce que vous avez choisi plutôt la nouvelle. Enfin, je ne sais pas si vous avez choisi ou si ça s'est imposé à vous, mais en tout cas, vous êtes une nouvelliste.
Oui, aujourd'hui, suis nouvelliste voilà. Dans le sens où j'ai effectivement écrit en très très grande partie des nouvelles. J'ai écrit il y a plus longtemps, un peu comme beaucoup d'adolescents de la poésie, j'ai écrit un peu de théâtre, j'ai même écrit un roman que j'ai quasiment fini mais qui est totalement impubliable, on va dire, c'est un roman de jeunesse comme on dit.
Ah oui, voilà, et puis, c'est ce qu'on garde au fond d'un tiroir voilà. Toute sa vie ça.
Oui, oui, il risque d'y rester encore un bon moment. Et en fait, j'ai toujours un petit peu écrit parce que j'ai toujours beaucoup lu. Et la nouvelle, en fait, je me suis lancée dedans simplement parce que c'est un genre qui est court, qui est vite fini quand on l'écrit et aussi quand on le fait lire. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un retour sur une forme aussi courte que,
qu'un
par
roman,
exemple, sur
voilà,
un roman
on
est quasiment
perdre,
obligé de finir.
Oui, puis ça met longtemps à s'écrire. Un roman, j'imagine qu'un recueil, ça, vous les avez écrits en combien de temps, par exemple, court, noir, sans sucre?
En fait, il se trouve que la plupart des nouvelles, enfin, beaucoup de nouvelles étaient déjà écrites et qu'ensuite, avec l'éditeur, on les a choisies, réunies, je les ai corrigées, retravaillées pour pouvoir faire ce recueil thématique qui correspond bien au titre, en fait.
Donc justement, Cours noir sans sucre, c'est édité, je suis en train de chercher le...
Chez Lettres minuscules.
Chez Lettres, alors Lettres, L apostrophe,
voilà, comme l'être humain.
R, voilà, c'est en plus, voilà, donc c'est paru en 2005, l'année dernière.
Voilà, décembre 2005.
Et puis donc vous en avez fait un. Donc là il y a 13 nouvelles donc Cours noir sans sucre.
Oui.
Et puis vous en avez fait un deuxième, Toute humanité mise à part. Donc il a été édité par un éditeur belge qui s'appelle Quadrature.
Voilà, Quadrature.
Qui est spécialisé plutôt dans les nouvelles justement.
Ne fait que des nouvelles.
Qui ne fait que des nouvelles.
C'est une jeune maison d'édition aussi qui doit avoir 2 ans et demi je crois maintenant et qui a choisi vraiment délibérément de ne publier que des nouvelles.
Et là, donc, c'est paru en 2006, début 2006.
Février 2006.
Février 2006. Et là, c'est pareil, c'est des nouvelles que vous aviez écrites, qui étaient présentes, voilà, et que
certaines étaient déjà écrites. Il y en a pour les deux recueils, 2 ou 3 que j'ai écrites spécialement pour le recueil, qui complétaient assez bien le recueil. Mais c'est vrai que j'ai un vivier de nouvelles assez important. Je continue d'en écrire, donc je mélange les nouvelles et puis quelques-unes qui ont un peu plus de bouteilles, mais que je retravaille toujours de toute façon avant de les publier.
Donc nouvelliste, en fait, un peu comme Magali Duru, vous avez choisi parce que justement c'est concentré, c'est court et puis voilà.
C'est intense.
Ah oui,
il n'y a pas de.
Ça c'est comme les petits polars de Magali Duru. Ouais. Vous, c'est pareil, vos nouvelles, elles sont très concentrées, quoi. Enfin, je veux dire, les chutes sont.
Oui.
On dirait que tous les mots sont choisis, que tout est choisi.
En principe,
vraiment,
ils le sont, oui.
Oui, j'ai vraiment ressenti ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est très noir, hein, faut quand même le préciser. Quand on vous voit, on a du mal à imaginer qu'une jeune femme comme vous puisse écrire des choses aussi.
C'est une réflexion qu'on me fait souvent.
Ah ben oui, je départs pas alors. Non, c'est vrai que c'est. Il y en a certaines. Enfin, moi, j'ai eu du mal à les terminer. Hein. Enfin, émotionnellement, c'est.
C'est oui,
dur,
mais c'est aussi
dures,
l'intérêt de la nouvelle, de pouvoir.
Ah oui.
Mais ça concentre aussi un peu l'émotion. Enfin, quand on réussit à le faire, c'est pas toujours évident
d'y
parvenir.
Vous réussissez parfaitement. Hein. Ça, genre, il y a.
Merci.
Oui, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que le roman, ça peut. On peut un peu.
On peut délayer, diluer un petit peu. Alors, ça peut être très réussi également,
oui,
mais c'est une autre forme d'émotion souvent que celle que peut procurer la nouvelle.
Là, c'est vraiment du concentré, et puis les chutes sont. On est là avec le livre et on se dit ah oui d'accord. Mais vous avez un style très très personnel.
Oui, enfin je pense pas à un autre auteur quand j'écris. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, de la manière dont j'ai envie de l'écrire.
C'est précis.
Et voilà, j'ai surtout envie que tous les mots soient à leur place et qu'il n'y en ait pas qui soient superflus.
Ah mais non, mais ça j'en ai pas
trouvé.
Je
ne veux pas enrober les choses.
J'ai bien regardé, il n'y en a pas de superflus, c'est sûr. Non. Mais c'est vrai qu'elles sont, voilà, c'est assez, c'est un peu un petit peu pas détaillé, mais je veux dire, bon, il y a la mort qui revient souvent.
Oui. En fait, j'essaie d'écrire sur les personnes de la vie en général, toutes celles qu'on rencontre, mais qui vivent chacune de leur côté, un petit peu dans leur coin et sans en faire étalage, des choses assez dramatiques. Et donc j'essaie de m'inscrire dans la compassion, ou plutôt l'empathie plus exactement, de ressentir ce que ces personnes vivent, en essayant de ne pas sombrer dans le pathos et d'éviter le voyeurisme ou quoi que ce soit. Donc d'aborder ça sous un angle quelquefois assez décalé.
Oui.
Et ce qui exige parfois aussi un peu d'humour noir.
Oui, de la dérision, enfin, puis c'est cruel.
Mais qui
aussi,
n'empêche pas l'émotion. Il y a de la cruauté, bien sûr, mais bon, la vie est cruelle.
Oui,
les personnes sont cruelles entre elles, le sort est cruel, etc. Donc, ce sont les choses telles qu'on peut les vivre. Enfin, que certaines personnes peuvent les vivre.
Oui, mais mise à nu, vraiment.
Voilà. Voilà, sans l'emballage des bons sentiments.
Il n'y a pas de petits nœuds, il n'y a pas de petites choses autour. Non, c'est vraiment. Si on peut un petit peu dire, par exemple, si on prend cours noir sans sucre pour donner ne serait-ce que les titres, pour donner une idée, déjà rien que vos titres sont assez.
Titres sont importants en général.
Ils sont importants, sont assez éloquents. Donc la première, c'est assistance technique. Alors quand ça donne le ton, enfin moi j'ai trouvé que vraiment je me suis dit, ah, c'est un recueil, ça va être spécial. Je sens que ça va être spécial parce qu'une fois qu'on a eu la première nouvelle, on se dit, oulala. Elle est, donc c'est essentiellement, la mort revient, enfin, est là, est présente, on va dire, voilà. La deuxième, c'est jardin secret. Donc là, c'est un peu. Oui, j'ai mis la curiosité est un vilain défaut.
Oui, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Bon, alors voilà. Après, j'ai mis. La troisième, c'est femme d'intérieur. Donc là, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Comment on pourrait dire
L'enfermement.
L'enfermement, la non-liberté.
Voilà, oui. Puis bon, le sort que peuvent subir certaines femmes un peu persécutées par leur mari.
La quatrième, c'est les mouches. Alors, justice soi-même, j'ai mis.
Oui, il y a de ça. Enfin, il y a une sorte de réflexion en filigrane aussi sur le travail humanitaire avec cette position de neutralité que peuvent s'imposer ces personnes qui sont très souvent admirables, mais qui est une neutralité impossible à tenir la nouvelle est assez éloquente à ce sujet.
La cinquième, c'est la place du mort. Donc là, j'ai mis... un mystérieux colis. Mais enfin bon, voilà, ça n'explique pas tout. Enfin, genre, il ne faut pas non plus tout expliquer. Il faut que les personnes...
Oui, après, il faut découvrir un petit peu au fur et à mesure.
Mais celle-là, elle était forte aussi. Quoi. Bon, la mort, toujours, qui revient également. Elles sont même dans la précédente.
La perte.
Le travail humanitaire. Voilà, la perte, la mort. Après, la sixième, c'est dans le panneau. Voilà, donc un peu l'innocence, les personnes un peu différentes de nous, on va dire, qui quelque part sont... Est-ce qu'elles sont vraiment différentes de nous? Ça, on peut se poser la question.
Elles sont peut-être aussi plus perspicaces.
Tout à fait. Donc peut-être un sixième sens que n'ont pas forcément les autres personnes. La septième, c'est guerre lasse. Donc alors là, c'est... Moi, j'y ai vu un peu les retours des gens qui ont fait la guerre, quoi, avec, toute cette folie, toute cette folie qui peut envahir leur vie après la guerre.
Oui. Est-ce qu'on peut revenir de ça, justement?
Est-ce qu'on
C'était
peut revenir
la question
de ça? C'est la
qui
question.
Se posait dans cette nouvelle.
La huitième, c'est tête de station. Alors ça, j'ai bien aimé, celle-là. C'est l'illusion, c'est le rêve, poursuivre un rêve malgré tout.
Malgré la réalité.
La réalité, voilà, tout à fait. J'ai bien aimé celle-ci avec ce chauffeur de taxi. La neuvième, c'est avis de passage. Avec, là, j'ai mis l'incompréhension humaine.
Oui.
On peut dire, avis de passage. La dixième, c'est tristesse limitée. Alors là, j'ai mis l'imaginaire face à l'apparence. Enfin, l'imagination même.
Oui, voilà, les apparences sont trompeuses. Celle-ci est particulièrement cruelle, mais assez amusante aussi en même temps. Enfin, j'ai trouvé, en l'écrivant en tout cas.
Bah oui, non. La onzième, la vie au gramme près. Alors là, celle-là, quand l'artiste donne sa vie pour son œuvre, c'est un peu ça.
Oui, il y a des extrémités, mais qui sont vécues par certains.
Et ensuite, la douzième, la mer à boire. Donc j'ai mis le temps n'efface rien.
Voilà, c'est bien résumé.
Ah oui, moi aussi, vous voyez, je fais pas des nouvelles, mais j'essaie de concentrer les choses. Et la 13e, donc 13, je sais pas si c'est un chiffre exprès que vous avez choisi, 13.
Non, en fait, quand on a eu fini de choisir les nouvelles avec l'éditeur, il m'a dit « Tu n'es pas superstitieuse, il y en a 13 bon. ». J'ai dit « Bon, ça ira très bien comme ça, voilà ».
Non, je pense que ça a dû vous porter bonheur, quoi, hein, parce que bon, donc la 13e, c'est le chemin à l'envers. Alors, bah justement, je crois que il est l'heure, voilà, de le chemin à l'envers. Vous allez nous faire la lecture de la 13e nouvelle du recueil, donc Cours noir sans sucre, édité donc chez Lettres minuscules. Et donc, je vais vous laisser la parole, Emmanuel Urien, donc pour cette 13e nouvelle. On vous écoute.
Bastien oublie. À chaque instant qui passe, il oublie quelque chose. Les règles du jeu au football, le nom de son meilleur copain, la liste des courses, 1515 Marignan, il oublie tout. Si je lui dis « main », un réflexe la lui fait lever aussitôt, et puis le temps du mouvement, le voilà qui se demande ce que c'est que cette drôle de fleur-là qui s'agite devant ses yeux. L'étonnement sur son visage s'estompe et disparaît quand, retombée sur ses genoux, elle perd à nouveau son sens et de main et de fleurs. Bastien oublie quelquefois qu'il sait parler, et alors il reste planté là, surpris, à tourner sa langue dans sa bouche comme si sa vie en dépendait. Souvent je lui répète, c'est moi Bastien, c'est maman. Je suis son point d'ancrage à la réalité. Il arrime son regard au mien et psalmodie la phrase, Bastien c'est maman, parfois des heures durant, un air de concentration effrayant plaqué sur ses traits enfantins. Il vient d'avoir 10 ans et il ne les fait pas, ou plutôt, il ne les fait plus. Bastien a décidé de rebrousser chemin à peine celui-ci entamé. Sa vie se rembobine, souvenir par souvenir, sous mes yeux incrédules. J'essaie de retenir ce qui fuit, je m'agrippe au corps trop docile de Bastien, capture sa tête entre mes mains, doigts écartés, pour faire une cage autour de son crâne, emprisonner sa mémoire volatile, empêcher que s'échappe ce que nous avons eu tant de mal à construire tous les deux. En vain, je suis incapable de m'interposer entre Bastien et le mal qui l'attaque. Maladie neurodégénérative foudroyante, incurable et sans nom, innommable. Il n'y a rien à faire, déclarent tous les médecins. En professionnels avertis, ils prennent une expression désolée qu'on dit de circonstance, dénuée de véritable compassion. Et pour me rassurer ou me consoler, ils ajoutent « il ne se rend probablement compte de rien ». Voilà une assertion qui ne leur coûte pas grand-chose. Probablement, ce n'est pas suffisant. Je voudrais être sûre. Malgré leur prévention, je ne peux m'empêcher de guetter l'étincelle dans les yeux de Bastien, celle qui embrasera mes espoirs à l'encontre des pronostics et ravivera les images d'avant. Comme les films que je me passe en boucle sur la télé, la nuit, quand Bastien a refermé les yeux sur ce désert en expansion qui lui mange la tête. Je commence toujours par celui où Bastien, à 3 ans, déchire le papier de son cadeau d'anniversaire en clamant « Un bateau, maman, regarde, un bateau de pirate !» Dans le suivant, Bastien, 5 ans, arbore le maillot de son équipe de foot et court autour de la table en criant « Champion du monde !» Mon préféré, c'est celui d'après, où Bastien râle en essayant d'échapper à la caméra. Il ne veut pas que je le filme comme ça, dans son vieux pyjama, celui avec les ours et le pantalon trop court. Il avait 9 ans, presque 10, c'était l'époque où il commençait à prendre conscience de son image, tout juste esquissée, mais dont le trait s'affirmait chaque jour. Et puis voici Bastien qui fixe l'objectif en se grattant la tête, l'air perdu. Et Bastien, assis sur le canapé, l'œil tourné vers un vide intérieur terrifiant. C'était la semaine dernière, juste avant qu'il ne cesse tout à fait de parler, sauf pour répéter après moi, « Bastien, c'est maman. » C'est quoi l'issue ? Ma question est large. Quand je m'interroge sur l'avenir de Bastien, c'est comme si j'évoquais la destinée de la planète entière. Mais les médecins ne voient pas si grand. Pour eux, Bastien est simplement un cas clinique, aussi intéressant que désespéré. Et leur réponse tient en 3 mots définitifs. État végétatif complet. Un légume. Bastien courgette, Bastien carotte, pommes de terre, petits pois. Bastien aimait la soupe avant d'oublier les mots et les gestes qui vont avec. La soupe, les pâtes, le chocolat, comme tout le monde. Aujourd'hui, je dois d'une main tenir sa mâchoire ouverte, de l'autre enfourner la cuillère dans sa bouche. Il m'en manquera toujours une troisième pour essuyer ce qui coule, sur son menton à lui et sur mes joues à moi. Tout cela se mélange quand je l'étreins. La soupe est trop salée, tu as raison. Recrache-la, mon Bastien, et n'oublie pas de respirer. Son père est venu hier pour le voir. Un tiers d'apitoiement, un autre de curiosité, et il est reparti avec le 3e tiers en travers de la gorge. Du dégoût, qu'il ne s'est même pas donné la peine de masquer. Bastien ne l'a pas reconnu, tant mieux. Il était en train d'oublier qu'on pouvait soulever les paupières pour ouvrir les yeux et voir. Pas regarder, ça non, c'était déjà loin derrière lui. Je me suis dit qu'entendre était encore à sa portée, Alors quand la porte a claqué derrière mon ex-mari, j'ai serré mon fils dans mes bras et j'ai répété, jusqu'à ce qu'il s'endorme, « Bastien, c'est moi, c'est maman. » Je ne suis pas allée travailler depuis près de 2 mois. Le patron de la supérette, où j'exerce tour à tour comme caissière et femme de ménage, conciliant tout d'abord, m'a mise la semaine dernière devant le fait accompli. Les temps sont durs pour tout le monde, légumes ou pas. Il m'a remplacée par une autre. En déchirant ma lettre de licenciement, j'ai pensé qu'au train où allaient les choses, je serais bientôt à la rue. Quand elle a appris mon renvoi, l'assistante sociale est passée m'apporter des dossiers à remplir pour obtenir des aides, retarder un peu l'échéance. Chaque fois qu'elle sonne à la porte, 2 petits coups brefs, elle a sa patte, j'ai le cœur qui sursaute et l'estomac qui se rétracte. C'est terrible ce qui vous arrive. Pauvre gosse, lui qui était si gentil, si gai, si attentionné, si doué pour tout, si vivant. Un jour elle va le dire, il était si vivant. Je ne veux pas entendre ça. Je n'ouvrirai plus à l'assistante sociale. Sa pile de dossiers restera fermée, les formulaires vides, les cases pas cochées. Personne ne peut rien pour nous. Bastien cligne des yeux dans la pénombre. Depuis quelques jours, je le laisse allonger sur le canapé. Il ne tient plus sa tête, elle bascule et l'entraîne vers le sol. Il a une étrange façon de bouger, de drôles de gestes que j'ai fini par reconnaître, ceux d'un nouveau-né. Je croyais ça si loin, perdu, archivé dans mes souvenirs de jeune mère. J'aurais préféré ne jamais revoir chez mon fils ses mouvements lents et saccadés, cet étonnement sur son visage quand ses doigts passent par hasard devant ses yeux mi-clos. Il a tout épuisé de son passé, les acquisitions, les expériences, les réminiscences. Et pourtant il continue à oublier, à revenir sur ses pas. Jusqu'où ? Arrête-toi, Bastien, il n'y a plus rien par ici. Aujourd'hui, j'ai fermé les portes et les fenêtres, calfeutré toutes les embrasures. Je n'ai pas répondu au coup de sonnette de l'assistante sociale. J'ai porté Bastien dans mon lit, il ne pesait plus rien, il remuait à peine. Il ouvre un peu les yeux, je crois qu'il me reconnaît. Bastien, c'est maman. De temps en temps, un cri s'échappe de sa poitrine, un vagissement de nourrisson affolé. Là où Bastien s'en va, il n'y a plus de lumière et il a peur du noir. Je m'en souviens pour lui, je n'oublierai jamais. Alors je vais l'accompagner, faire la route avec lui, où qu'il aille, pour qu'il n'ait pas peur. Pour que quelqu'un sache qui il est, jusqu'au bout, jusqu'au fond de l'impasse. J'entends tout contre moi le souffle court de Bastien, et juste derrière, le sifflement léger du gaz qui s'échappe depuis la cuisine. Bastien, c'est moi, c'est maman. Allez, viens, on y est presque.
Oui, merci Emmanuel d'avoir lu donc la 13e nouvelle de ce recueil, court, noir, sans sucre. Donc, c'est voilà le... C'est assez puissant. Hein, on va rester là-dessus. Ce que chacun après, voilà, l'apprécie comme il le sent. Mais voilà, donc toutes les nouvelles sont un peu dans ce ton.
Hein. Oui, quelques-unes font preuve d'un peu plus de décalage et d'humour, mais celle-ci va.
Elle est assez
est très directe. Donc,
oui. Puis bon, ça, voilà, ça. Vous parlez donc de la mort d'un enfant, enfin, avec une maladie assez grave, donc les rapports, voilà, des parents, là, en l'occurrence de la mère avec l'enfant.
Oui, un rapport très intime.
Voilà, donc c'est très. Mais d'ailleurs, dans toute humanité mise à part, on n'aura pas le temps, malheureusement, de parler donc de ce deuxième recueil. Mais bon, il y en a une aussi qui fait appel aussi rapport mère-enfant. Qui a une maladie grave également.
Oui, mais elle se clôt sur un espoir, contrairement
oui,
à celle-ci.
Oui, tandis que là, sur celle que vous venez de lire, il y en a malheureusement pas, quoi. Il n'y en a plus.
Non, c'est une réalité.
Bon, vous reviendrez en 2007 pour le troisième recueil qui
Avec
va
plaisir.
Être publié donc en 2007. Donc vous allez revenir nous en parler. Donc toujours des nouvelles qui seront un petit peu toujours pareilles, dans noir aussi.
Qui seront noires aussi, mais qui seront assez variées, on va dire.
Bon, j'ai juste le temps de donner votre site pour les gens qui nous ont écoutés, les auditeurs, les auditrices. Donc c'est www.emmanuel-urien.org www.emmanuel-urien.org. Donc voilà, pour commander donc ces deux recueils, donc Toute humanité mise à part et Court noir sans sucre, et puis en attendant donc le troisième en 2007, et on aura plaisir à vous recevoir de nouveau donc sur Radio Occitanie. Merci Emmanuel.
Merci beaucoup Claire.
Adiciats.